Voilà, alors je vais essayer de terminer ce que j'ai commencé ce matin, et puis après je passerai peut-être à autre chose, s'il nous reste du temps. Donc j'ai mis au tableau là, les sessions optimisées, les homélies. Vous pouvez aller sur leur site et puis en savoir un peu plus si vous voulez. Alors ça se fait dans plusieurs diocèses, ça se fait, vous verrez, si vous voulez conseiller ça à votre curé, très gentiment. Non, mais ça peut vous donner les arguments, moi, déjà. Et puis, c'est pas la peine de m'envoyer le lien, je le connais déjà. C'est désespéré, donc. Alors, ce matin, on a terminé sur la question de la Lectio Divina. Je vais juste en redire quelques petits mots. Alors, le pape en parle au numéro 152. Elle consiste dans la lecture de la parole de Dieu à l'intérieur d'un moment de prière pour lui permettre de nous illuminer et de nous renouveler. Alors, traditionnellement, donc, la Lectio Divina est très à l'honneur dans les monastères. Il y a beaucoup de manières de prier. Hein, quelquefois, il y a des personnes qui sont très attachées à l'oraison. Et c'est bien, l'oraison, c'est très bien. Hein, j'ai rien contre l'oraison. Mais après, où certains disent, ah non, l'oraison, l'adoration, c'est pas la même chose. On mélange pas les torchons et les serviettes. À mon avis, il faut pas être si tranché que ça. Alors, c'est vrai que c'est pas la même chose, l'oraison. Dans l'adoration du Saint-Sacrement, il y a le Seigneur qui est présent, donc c'est pas la même chose, je suis d'accord, mais finalement ça se rejoint. Le but, c'est de rejoindre Dieu et d'être en communion avec Dieu. Et quelquefois, justement, ça nous aide d'avoir le Seigneur bien présent devant nous pour le rejoindre en nous. C'est vrai qu'ultimement, il faut s'intérioriser. Ça, la prière, s'il n'y a pas d'intériorité, c'est un peu compliqué, mais sans trop saucissonner les choses. Dans les monastères, ça avait été une. Quand j'étais allé, moi j'y connaissais rien, donc je suis allé dans un monastère, puis je regarde sur leur horaire, et puis je vois, oraison, ils avaient un quart d'heure d'oraison par jour. Je me dis, mais c'est bien la peine d'aller se faire moine et puis d'avoir un quart d'heure d'oraison par jour. Mais ça dépend ce qu'on entend par là. Parce qu'ils avaient, ce qu'il faut regarder avant, c'est que dans les premières heures du jour, ils ont peut-être 2 heures pour méditer sur la parole de Dieu. Et pour faire ce qu'on appelle la Lectio Divina. Donc avec plusieurs étapes, une étape plus active où on travaille le texte, on essaie de comprendre, on fait marcher son intelligence, et puis après une étape plus méditative, après une étape plus de l'oratio, ce qu'ils appellent l'oratio, je crois, et puis après l'étape de la contemplation, ce qui correspondrait à l'oraison, où on goûte intérieurement ce qu'on a pu découvrir dans la parole de Dieu. Donc c'est un quart d'heure, mais c'est le sommet de 2 heures de prière, donc ils font quand même leur travail. Hein. Enfin, juste pour dire de ne pas trop saucissonner les choses. Bon, après, l'important c'est de rencontrer Dieu et de le rencontrer à l'intérieur, enfin de nous-mêmes, sans se parler à soi-même, mais vraiment parler à Dieu. Voilà. Alors donc, si vous voulez des maîtres en Lectio Divina, c'est dans les monastères qu'il faut surtout aller, dans les monastères contemplatifs, les cisterciens, les bénédictins et tous les autres. Ça, c'est vraiment ce qu'ils peuvent nous apprendre. Voilà, alors donc, il y a différents moments dans la Lectio, et il y a notamment ce moment de la méditation, on pourrait dire, où après, le pape. Parle pas de ces différents moments directement dans sa lettre, mais au numéro 153, il fait quelques propositions très intéressantes. En présence de Dieu, dans une lecture calme du texte, il est bien de se demander, par exemple, Seigneur, qu'est-ce que ce texte me dit à moi? Hein, vous comprenez bien? La première étape, c'était ce que le texte dit, ce que l'auteur a voulu dire. Donc, c'est toujours la lecture littérale, le sens littéral qui est premier. Mais après, alors, bon, c'est là que ça. Et c'est toujours ce qui est le point de départ. Mais après, qu'est-ce que ce texte me dit à moi? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie avec ce message? Qu'est-ce qui m'ennuie dans ce texte? Ça peut peut-être vous arriver. Pourquoi cela ne m'intéresse-t-il pas? Ou au contraire, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me stimule dans cette parole? Qu'est-ce qui m'attire? Pourquoi est-ce que cela m'attire? Et alors, je vous lis tout le passage qui est intéressant. Quand on cherche à écouter le Seigneur, il est normal d'avoir des tentations. Une d'elles est simplement de se sentir gêné ou oppressé, de se fermer sur soi-même. Une autre tentation très commune est de commencer à penser à ce que le texte dit aux autres, pour éviter de l'appliquer à sa propre vie. Il arrive aussi qu'on commence à chercher des excuses qui permettent d'affaiblir le message spécifique d'un texte. D'autres fois, on retient que Dieu exige de nous une décision trop importante que nous ne sommes pas encore en mesure de prendre. Cela porte beaucoup de personnes à perdre la joie de la rencontre avec la parole. Mais cela voudrait dire oublier que personne n'est plus patient que Dieu le Père, que personne ne comprend et ne sait attendre comme lui. Il invite toujours à faire un pas de plus, mais il n'exige pas une réponse complète si nous n'avons pas encore parcouru le chemin qui la rend possible. Il désire simplement que nous regardions avec sincérité notre existence et que nous la présentions sans feinte à ses yeux, que nous soyons disposés à continuer de grandir et que nous lui demandions ce que nous ne réussissons pas encore à obtenir. Ça, c'est, si je peux me permettre l'expression, c'est du pape François tout craché, là, cette dernière partie. Hein, de prendre les gens dans, là où ils sont pour les emmener un peu plus loin. Même si c'est... Mais pas pour les laisser stagner là où ils sont, bien sûr, mais... Voilà. Toujours dans le numéro suivant, en numéro 154... Le pape invite les prêtres à être pas simplement contemplatifs de Dieu, mais contemplatifs du peuple. Alors, je vais vous contempler. Justement, puisqu'il est appelé à faire un peu le... Alors, ça, c'est dans le cadre de l'homélie hein, qui dit ça. Il est à faire l'intermédiaire, en quelque sorte, entre Dieu et le peuple. Donc, c'est important qu'il contemple Dieu, mais aussi qu'il sache regarder... Le peuple qui lui est confié pour voir ce dont son peuple a besoin, ce qu'il a besoin d'entendre, la nourriture dont il a besoin. Et du coup, de prêter attention à ce qui se passe. Voilà. Au numéro 157, je saute passage. Voilà ce que dit le pape. Seulement à titre d'exemple, rappelons quelques moyens pratiques qui peuvent enrichir une prédication et la rendre plus attirante. Un des efforts les plus nécessaires est d'apprendre à utiliser des images dans la prédication, c'est-à-dire à parler avec des images, ce qui n'est pas la même chose que les exemples. Les images aident à apprécier et à accepter le message qu'on veut transmettre. Alors, c'est vrai que là, pour les images, le pape François a un génie particulier. Vous regardez, vous lisez de temps en temps ses homélies, il a plein d'images. Un jour, pour montrer que Dieu, c'était pas le Dieu chrétien, c'est pas un esprit comme ça, un peu. Il dit, c'est pas un spray. Il a toutes sortes d'images qui sont assez... plus parlantes les unes que les autres, donc et souvent assez percutantes. Voilà. Alors, mais c'est bon, on ne sait pas toujours, et ça, l'Esprit Saint peut vraiment nous inspirer aussi pour trouver les bonnes images qui parleront au cœur. Voilà. Ah ben, 159, ça peut nous faire que du bien. Une autre caractéristique. Et le langage positif, il ne dit pas tant ce qu'il ne faut pas faire, mais il propose plutôt ce que nous pouvons faire mieux. Dans tous les cas, s'il indique quelque chose de négatif, il cherche toujours à montrer aussi une valeur positive qui attire, pour ne pas s'arrêter à la lamentation, à la critique ou au remords. En outre, une prédication positive offre toujours l'espérance, oriente vers l'avenir, ne nous laisse pas prisonniers de la négativité. Voilà, alors peut-être vous avez des questions, comme ça je vais passer après. Je pourrais parler plus longuement de la lecture divina, de la lecture de la parole de Dieu, ou vous avez peut-être des questions là-dessus, mais alors, je ne sais pas si vous avez des questions, et puis sinon après je vais faire une rapide présentation. Alors, les cinq moments de la lecture, tels que les présente le pape Benoît XVI dans son document Verbum Domini. Ça, c'est le Verbum Domini, c'est le document que Benoît XVI a fait paraître à la suite du synode sur la parole de Dieu. Alors, les cinq moments, c'est. On va essayer de. On va voir si je me rappelle malgré mon âge. Voilà. C'est facile, on enlève le N et puis. Action. Voilà les cinq moments. Je pourrais vous trouver la citation plus précise si vous voulez, mais bon, soit vous mettez ça dans Google et puis Saint Google vous donnera la solution. Alors, on va essayer de revenir un petit peu en arrière. Hop. Alors, comment. Je ne sais pas si j'ai pris le texte complet ici de Benoît XVI. Voilà, alors ça, on le retrouve aussi dans le directoire pour l'homélie. Alors je vous lis le passage, comme ça vous saurez tout. Le pape Benoît XVI décrit les étapes de la Lectio Divina dans son exhortation apostolique Verbum Domini. Elle s'ouvre par la lecture. Du texte qui provoque une question portant sur la connaissance authentique de son contenu. Que dit en soi le texte biblique? Sans cette étape, le texte risquerait de devenir seulement un prétexte pour ne jamais sortir de nos pensées. Donc, lectio, qu'est-ce que. Le sens littéral, d'abord. Qu'est-ce que. S'ensuit la méditation, meditatio, qui pose la question suivante. Que nous dit le texte biblique? Alors, ce n'est pas ce qu'il dit en général, mais à moi. Donc, les questions du pape François qui nous aident. Voilà, qu'est-ce qui remue en moi ce texte? Ici, chacun personnellement, mais aussi en tant que réalité communautaire, doit se laisser toucher et remettre en question, car il ne s'agit pas de considérer les paroles prononcées dans le passé, mais dans le présent. On arrive ainsi à la prière, oratio, qui suppose cette autre demande. Que disons-nous au Seigneur en réponse à sa parole? La prière comme requête, intercession, action de grâce et louange est la première manière par laquelle la parole nous transforme. Enfin, la Lectio Divina se termine par la contemplation, contemplatio, au cours de laquelle nous adoptons comme don de Dieu le même regard que lui pour juger la réalité, et nous nous demandons quelle conversion de l'esprit, du cœur et de la vie le Seigneur nous demande-t-il. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, affirme « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Alors, je saute quelques lignes. Et après, il est bon ensuite de rappeler que la Lectio Divina ne s'achève pas comme dynamique tant qu'elle ne débouche pas dans l'action, qui porte l'existence croyante à se faire don pour les autres dans la charité. Voilà. Alors, vous pouvez trouver le directoire pour l'homélie. au numéro 27. Voilà. Ça va? Ben, allez-y.
Juste sur la lecture du binaire avant le midi, une question très pratique de temps. Est-ce qu'on peut faire une lecture du binaire en moins d'une heure ou est-ce que...
Oh, oui, oui, oui. Alors. Oui, tout à fait. Alors, après, on prend le temps dont on dispose et après, c'est plus ou moins, on goûte plus ou moins. Hein, ça, mais. Déjà, en une demi-heure, vous pouvez déjà faire un petit quelque chose. Alors, bien sûr qu'une heure, c'est mieux. Hein, mais une demi-heure, vous pouvez déjà faire un petit quelque chose. Après, vous pouvez le fractionner en différents moments. Faire un moment plus de l'étude du texte. Vous creusez la tête et puis avoir un autre moment pour après, où vous posez plutôt des questions plus personnelles. Et donc, ça peut être aussi en différents moments. Mais alors c'est vrai que j'ai insisté un peu lourdement, mais comme le pape François d'ailleurs, sur le fait de partir toujours du sens littéral. D'abord, avant de tout de suite voir ce que ça évoque en moi ce texte, voir d'abord le sens du texte. Parce que ça nous permet de sortir de nous-mêmes. Sinon on a envie d'entendre ce qu'on... On n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. Et du coup, il y a des passages effectivement qui nous dérangent, etc. Mais pourquoi? Alors bon, on ne trouve pas toujours les questions tout de suite, hein, les réponses tout de suite à nos questions. On est quelquefois très démunis, mais c'est important ce passage de se confronter un peu à la parole, c'est le dialogue avec Dieu, hein, c'est lui qui nous parle. Alors on ne comprend pas toujours notre interlocuteur. Qu'est-ce qu'il veut me dire dans le fond? Voilà, alors quelquefois on a un peu de mal à comprendre, mais cette première étape est très importante si on ne veut pas être trop dans la subjectivité. Et puis voilà,
voilà.
Alors il y a des livres qui existent. Après, je vois ici entre frères, il y a des livres qui parlent à tel frère, mais qui ne parlent pas du tout à un autre frère. Hein. On a notre aussi tournure de pensée, etc. Donc. Il y a des livres qui vous plairont et puis qui ne plairont pas du tout à quelqu'un d'autre. Alors, il y a deux types de livres. C'est un peu schématique ce que je dis, mais il y a des livres, moi j'aime bien. Ça suit le texte verset par verset et puis du coup, on a quelques explications. Du coup, ça nous aide à... Voilà, il n'y a pas besoin d'être trop intellectuel, ça me va bien, ça. Après... Et donc, ça, c'est bien. Il y a toutes sortes de livres qui existent. Par exemple, c'est sur l'évangile de Saint-Luc. Donc, il y a tout l'évangile de Saint-Luc. Et puis après, il y a des auteurs qui vous parlent. Il y en a d'autres qui ne vous parlent pas. Hein. C'est un peu personnel. Et puis, bon, avant même ça, il y a les notes de la Bible, quand même, qui peuvent nous aider. Après, il y a des livres plus pour approfondir, mettons sur les chants du serviteur d'Isaïe, on a envie d'approfondir. Alors là, ça sera quelque chose d'un peu plus approfondi mais qui suivront pas verset par verset, mais qui donneront une vision un peu plus panoramique. Et voilà. Alors ça, c'est une autre manière, mais qui est intéressante aussi. Mais voilà. Alors, il y a beaucoup de... Je pense qu'il faut feuilleter et puis voir si ça nous parle un petit peu ou si... Voilà, si ça correspond à notre manière de fonctionner. Et puis... Mais je trouve que ça aide beaucoup d'avoir un commentaire de gens plus qualifiés que nous. Puis on démarre comme on peut. Et puis après, peut-être on prend juste un commentaire un peu sommaire au début. Et puis après, on fera des progrès. Et puis... Et puis petit à petit, on apprend des choses et voilà.
J'ai une question sur
Oui.
Est-ce que l'homélie, enfin c'est toujours lors d'une célébration eucharistique, est-ce que c'est uniquement le ministère du prêtre?
Alors,
il y a des paroisses où, je sais que quelques paroisses où
Alors, normalement, c'est évêque, prêtre ou diacre. Normalement, c'est un ministre ordonné qui peut faire une homilie en tant que tel. Quelquefois, il peut arriver qu'on intercale un petit témoignage ou je ne sais pas. Mais normalement, c'est plutôt la place de l'homélie, c'est vraiment quelqu'un, normalement. Après, il peut peut-être avoir des exceptions, voilà, telle ou telle fois, mais normalement, c'est. Alors, du coup, là, on touche aussi à un point intéressant, c'est le prêtre, il n'est pas forcément plus doué que les autres pour parler, hein. Mais dans la liturgie, on pense qu'il y a quelque chose d'autre qui passe. Ce n'est pas simplement le contenu intellectuel, etc. Parce qu'il y a peut-être des gens dans l'auditoire qui sont 10 fois plus calés, enfin 10 fois plus doués aussi pour parler. Donc ce n'est pas cette question, hein. C'est que malgré tout, il a reçu une grâce particulière pour donner la parole de Dieu. Alors ça peut être nous aussi de ne pas réduire l'homélie. Ah, j'avais une petite citation du curé d'Ars. Voilà, c'est quelqu'un à propos du curé d'Ars. Il ne prêchait pas encore bien, à mon avis. Cependant, quand c'était son tour, on courait à l'église. Voilà. Alors, et peut-être qu'il n'était pas très. Certaines fois, il répétait certaines parties du catéchisme. Ceci dit, quand vous avez. Il y a un livre, notamment avec des extraits du curé d'Ars, c'est lumineux, c'est des paroles, hein, c'est. Mais voilà, s'il avait passé un examen auprès d'un professeur d'homélie, il n'aurait peut-être pas été reçu. Je ne sais pas. Mais voilà. Alors, aider le prêtre à se remettre à cette grâce, au-delà de ce qui, voilà, il est ce qu'il est, mais Dieu veut donner quelque chose par lui. Je pense que dans la liturgie, c'est important d'avoir ce regard de foi. Comme le prêtre, bon, il n'est pas forcément doué pour organiser sa paroisse, mais. Il a une grâce comme pasteur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se faire aider, hein, mais voilà, c'est se mettre devant la grâce propre de. Et donc, l'homélie, ça fait partie normalement, de un ministre ordonné. Alors, j'avais une citation là-dessus. Voilà. Ah oui, alors après, il peut y avoir quelques petites choses, hein, mais qui. De Lectio.
De Lectio et
Méditation.
Voilà, ça fait 3 jours, voilà.
Oui.
Parce qu'en en fait, certains mêmes avaient du mal à. Ils sont tellement débordés qu'ils ont du mal parfois à méditer les textes avant. Et du coup, ben, ça.
Oui, puis très honnêtement, quelquefois, vous avez beau méditer 2 heures, il n'y a rien qui vous vient, aucune idée. Oh, ça existe.
C'est l'entraînement que pourraient reprendre les prêtres qui sont actuellement débordés de travail.
Alors, il y a des choses qui. Alors, il y a des choses qui existent. Hein, vous trouvez plein de bouquins d'homélie. Et puis, type, alors pour dimanche, cinquième dimanche de Pâques, B, C, alors on va regarder. Alors, quelquefois, ça peut nous inspirer. Moi, personnellement, je suis incapable de lire une homélie de quelqu'un. Déjà, je n'arrive pas à lire mes propres homélies, donc encore pire si c'est quelqu'un d'autre.
Si c'est bien rédigé.
Ah, mais même si c'est bien rédigé, moi, j'ai besoin de parler aux gens. Je ne prends pas les mots de quelqu'un d'autre pour parler aux gens. L'homélie, justement, c'est là qu'on voit le. Y a là, dans cette partie-là, le pape faisait méditation par rapport à Dieu, ou je ne sais plus où. Et puis, il contemplait aussi sur le peuple. Mais ça, un livre, il ne contemple pas le peuple. Il ne voit pas le peuple qu'il est en face. C'est une homélie un peu générale. Voilà, ça dit des belles choses sur le passage d'évangile qu'on a entendu. Mais ce qui est. Ce qui est intéressant pour l'homélie, déjà, qu'est-ce qui me parle à moi? Si ça ne me parle déjà pas, je pense que ça passe. Le curé d'Ars avait cette image de l'entonnoir. Si ça ne passe déjà pas par nous, ça ne rejoindra pas les gens. Quelque part, il faut qu'on ait digéré un peu la chose, que ça nous parle. Alors, quand on lit des choses, on dit bah oui, c'est vrai, je suis d'accord, tout ça, mais. C'est autre chose de dire c'est beau, c'est vrai, je suis d'accord, et de ça me parle vraiment et ça me touche, quelque part ça me fait vivre, c'est autre chose. Et c'est ça qu'on doit transmettre, ce qui nous fait vivre dans les passages de l'écriture. Et ça, c'est un livre, enfin moi je suis incapable, hein, vous me donnez tous les livres, il y en a qui m'aideront plus que d'autres, ça c'est vrai, avec certains auteurs, ça, mais bon, ceci dit, je suis incapable. Vous me proposez de rédiger mon homélie et j'aurais pu qu'à la. Incapable. Enfin, je pourrais lire, mais. Bon, voilà, je ferais ce que. Comme un livre. Hein, voilà. Enfin, c'est comme ça, en tout cas. Parce que ce qui est intéressant et ce qui intéresse le pape François, c'est ce dialogue, quelque part. Mais. Alors, il y a des livres qui nous aident, mais ça. À un moment, le pape François dit, mais ça ne nous dispense pas, si on veut que ça soit quelque chose de rapide, tout ça, ça ne marche pas avec la parole de Dieu. On a besoin de prendre du temps. Alors, ça peut nous aider, il y en a qui sont plus doués que d'autres, si après chacun fait comme il peut, mais. Voilà.
Mais vous parlez de dialogue.
Alors, quelquefois, normalement, on peut le faire un petit peu, notamment quand il y a des enfants, etc. Mais après, il n'y a pas de règle tout à fait générale. Normalement, ce n'est pas non plus un partage d'évangile où tout le monde change sa chaise de place dans l'église. Et puis, donc, ça, c'est pas l'homélie, ce n'est pas exactement ça, même si ça se fait une fois, c'est très bien, mais. Mais de temps en temps poser des questions, et effectivement ça peut être bien de poser telle ou telle question, ne serait-ce que pour les gens, que les gens ne s'endorment pas. Alors après ça peut faire partie des procédés oratoires aussi, même si les gens ne répondent pas, mais voilà, tiens, ça éveille notre attention. Après il peut y avoir des moyens divers, hein, c'est vrai que
sauf se balader avec son skate.
Oui. Voilà.
Et la différence entre sermon et.
Alors, ça dépend. Alors, je ne connais pas la définition de sermon, mais quand on nous dit il va te faire un sermon, je ne sais pas si la connotation est tout à fait positive. C'est parce que, alors, il peut y avoir. Le Concile Vatican II a remis en valeur l'homélie. Et normalement, en semaine. C'est pas obligé qu'il y ait d'homélie et tout ça, mais normalement le dimanche, le prêtre doit faire une homélie. Ça fait partie de son métier, ça fait partie des. Voilà. Mais c'est pas. Et si possible en lien avec la parole de Dieu, ou quelquefois au moins avec le mystère du jour, c'est pas qu'on parle quand même de la résurrection, sinon c'est un peu ennuyeux. Mais après un sermon, souvent dans ce qu'on en retient, c'est que c'est plus d'ordre moral, quelque chose d'un peu moralisant. Voilà, on dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Alors ça, je pense que ça peut venir à un moment de l'homélie, quelque part, une suggestion un peu pratique pour nous aider à vivre l'évangile qui a été proclamé. Alors je pense que c'est. Mais ce n'est pas le tout de l'homélie. C'est pas. Même si ça. Alors, il peut y avoir plusieurs définitions de sermon, hein, mais. Et souvent, quand on entend un sermon, c'est plus pour. Il y a une connotation morale assez accentuée.
Est-ce que le sermon est la racine du mot homélie?
Voilà, mais il ne faut pas poser des questions, je ne sais pas. Non, je ne sais pas d'où ça vient, oh, ça devait venir du grec.
Les jésuites, il y a une
très. Oui.
C'est de prier pour nos
Oui. Oui. Bon, c'était le curé d'Ars. Hein. Mais oui, c'était. Quelque part, c'est son amour de Dieu qui. C'est ça qui est le plus. C'est ça qui est le plus. Encore des questions ou je passe à la suite? Ah, une demi-heure. Ah, oui. Non, mais Marie-Pierre, je ne lui réponds pas. Ben, j'irai chercher mon dictionnaire.
Moi, j'irai demander à Monsieur Google.
Oui, hein, Monsieur Google, tout ça. Alors, si vous voulez, je peux. Comme ça, vous ne partirez pas sans rien. Alors, il y aura deux feuilles. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième.
Jeune sportive.
Oui, mais, oui, plutôt après que pendant. Plutôt après. Mais je pense que c'est important que vous disiez, parce que, alors, vous pouvez ne pas être d'accord pour plusieurs choses. Pour dire, ça peut être sur le contenu. Alors, peut-être qu'il y a des erreurs théologiques ou voilà dans l'homélie ou des orientations. Il parle de politique plus que de Jésus ou voilà. Je ne sais pas, à ce moment-là, je pense que c'est bien d'aller le voir, mais et le voir avec délicatesse. Mais je pense que c'est. Je pense que c'est bien de dire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que dit le prêtre. Et ce n'est pas parce qu'il prêche pendant la messe que forcément tout ce qu'il dit vient du Saint-Esprit. Hein, parce qu'il peut mélanger un peu des choses de lui et du Saint-Esprit. Donc, c'est vrai que ça donne une certaine autorité de parler. Et alors on devrait l'utiliser à bon escient, mais quelquefois on peut déraper. Alors le dialogue, quand il parle. Alors. Si on resitue l'homélie dans le contexte de la messe, le dialogue, c'est pas d'abord dialogue parler entre nous, c'est le dialogue entre le peuple et Dieu. Hein, c'est plutôt l'homélie fait partie de ce mouvement où on écoute la parole de Dieu et après on s'associe au sacrifice de Jésus pour se donner. C'est plutôt dans ce sens-là le dialogue. C'est pas que chacun va prendre la parole. Ça sera un peu compliqué. Ça serait le dialogue, c'est pas dans ce sens-là, je crois. Hein. Mais ça suppose au prêtre de lire un petit peu quand même un minimum ce que le peuple à qui il parle a besoin d'entendre. Il y a aussi. Si tout ce qu'il dit, ça passe complètement à côté, il vous donne un cours de théologie, mais c'est complètement à côté, ou s'il répète le journal télévisé, ça ne vous nourrira pas beaucoup. Donc, voilà, donc. Et du coup, de voir ce. Le pape François l'exprimait très bien. Voilà, je vais reprendre le passage. Si je vais retrouver, c'est pas grave. Mais c'était de. Bon, je ne vais pas prendre tout le temps à chercher, mais il disait de rejoindre le cœur du peuple et de voir là où en était le peuple pour qu'il puisse répondre à Dieu, mais répondre par sa vie et par son amour plus que par des paroles. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que se situait le dialogue. Oh bon, après, chacun fait comme il peut. Moi je sais pas. Hein, c'est... Bon, après, bon, on est des hommes, on fait ce qu'on peut. Alors, il y en a peut-être qui ont plus de difficultés, ou je sais pas. Ici, vous voyez 5 prêtres prêcher, il y a 5 prêtres qui prêchent différemment. Hein, parce que, voilà, après,
on
fait... Oui, bon, ça peut.
Ça peut nourrir, ça peut nourrir quand même.
Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc il ne faut pas trop saucissonner les choses. Si...
Oui.
Mais bon, si c'est un peu plus spontané, c'est plus chaleureux que lire un papier. Mais il y en a qui savent très bien lire. Père Jean lisait son papier de A à Z, toutes les virgules. Sauf quand, si on lui piquait ses papiers, alors...
C'était ses virgules à lui.
Oui, c'était ses virgules à lui, oui. Mais voilà, il s'arrachait les cheveux jusqu'à 2h du matin pour changer ses virgules de place. Pardon ? Ah ben oui, dans l'idéal, oui, c'est bien. C'est bien d'arriver à la messe avant de, en ayant déjà lu, ce qui ne nous arrive pas toujours. Mais... Ben, je pense que chaque chrétien, vous mangez tous les jours. Alors, quelque part, qu'on ait un petit morceau de parole, entre guillemets, chaque jour pour faire la route, notre route quotidienne, c'est bien. Après, ça ne veut pas dire qu'on va passer une demi-heure tous les jours sur la parole, mais de lire quelques passages de la parole de Dieu tous les jours, je pense que c'est bien.
Mais oui, mais je sais que l'homme ne lit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la
bouche. Exactement. Oui, oui, très bien. Voilà. Oh, mais j'ai presque plus de temps. Bah, sauf si vous ne voulez pas.
Si.
Alors, donc... Donc ça, c'était la joie de l'Évangile. Amoris Laetitia, c'est pas tout à fait la même épaisseur, mais c'est un piège. Hein. Parce que les marges sont plus grandes, c'est écrit plus gros. Mais c'est quand même un peu plus long. C'est quand même un peu plus long. Voilà. Donc, je vais essayer de vous dire 3 choses. Première chose, un rapide survol du plan d'Amoris Laetitia. Il y a combien de parties ? 9. Comme ça, vous verrez. Moi, j'aime bien regarder le plan avant de me lancer dans un... savoir où je vais. Un peu... Alors, donc il y a d'abord il y a plusieurs parties. Alors, la question des divorcés mariés, vous la trouvez pas. Alors, s'il y a c'est au chapitre 7 surtout. Non, au chapitre 8, le discernement des situations appelées irrégulières. Voilà. Mais bon. Mais ce n'est pas le cœur du document, hein, parce que c'est les médias, tout ça, et c'est dans une note où il y a quelque chose qui est... Donc, ce n'est pas le cœur du document, donc je pense que c'est bien de revenir au plan pour voir quand même l'idée du pape. Les 3 premiers chapitres forment un peu un ensemble. Le premier chapitre, à la lumière de la parole, justement, c'est de regarder un peu la famille dans la parole de Dieu. Donc, il part du psaume 128. Mais bon, c'est, après c'est plus large. Mais voilà, c'est vraiment la famille dans la parole de Dieu, avec les belles choses de la famille et puis aussi les choses plus difficiles de la famille. Parce que dans la parole de Dieu, ça ne se passe pas toujours bien en famille. Il suffit de penser à Caïn et Abel, ça ne se passe pas très bien. Il y a d'autres situations aussi un peu compliquées. Voilà. Le deuxième chapitre, c'est la situation actuelle, la réalité, les défis de la famille. C'est plutôt l'écoute de l'actualité. Premier chapitre, on regarde la parole de Dieu. Deuxième chapitre, on regarde plutôt l'actualité, la famille aujourd'hui au XXIe siècle, en 2016. Quels sont les défis qui concernent la famille? Donc là, ils regardent plutôt le monde et voilà, ce qui se passe dans le monde. Justement, vous avez, là, il disait d'un côté d'écouter la parole de Dieu et puis après d'écouter le peuple. Et voilà. Donc, d'écouter aussi ce que les gens, la parole qu'il faut donner aux gens dans la circonstance actuelle où les familles sont très malmenées. Alors voilà, donc c'est un peu, on reste un peu toujours quand même dans cette dynamique, on pourrait dire. Troisième chapitre, c'est l'enseignement de l'Église sur la famille. Donc vous avez un petit condensé de l'enseignement de l'Église sur la famille. Donc ça, donc il ne reprend pas tout de A à Z, comme si rien n'avait été fait avant lui, bien entendu. Il doit le dire d'ailleurs. Au numéro 60, dans ce cadre, ce bref chapitre recueille une synthèse de l'enseignement de l'Église sur le mariage et la famille. Donc ça, c'est les trois premiers chapitres qui... Voilà. Mais le cœur du document du pape François, c'est le quatrième et cinquième chapitre. Alors, quatrième, c'est l'amour dans le mariage, et le cinquième, c'est l'amour dans la famille. Donc, l'amour conjugal, on pourrait dire le quatrième chapitre, et plutôt le chapitre 5, l'amour dans la famille, alors avec différentes relations, père, mère, entre enfants, avec les personnes âgées, etc. Bon, il y a... voilà, donc ça... Et alors, le quatrième chapitre, ben, vous pourrez le relire avec votre conjoint, si c'est le cas. Donc, au début, c'est beaucoup un commentaire de l'hymne à la charité. Et puis après, il parle de différentes autres choses. Mais ça, c'est des numéros 90 à 119. C'est un commentaire de l'hymne à la charité. Puis après, donc, des numéros 142 à 162, c'est plus ce qui concerne la sexualité au sens large. Bon, ça, donc quatrième chapitre, cinquième chapitre, les rapports dans la famille. Puis après, c'est plus les trois chapitres qui suivent, plus une dimension pastorale. Alors, je vais peut-être quand même reprendre un peu mon... Mais enfin, peu importe, je vais suivre le plan. Alors, donc, l'accompagnement, ça c'est un mot qui revient beaucoup sur l'élève du pape François, l'accompagnement, donc que ce soit pour les fiancés, que ce soit pour les premières années de mariage, que ce soit quand il y a des crises, voilà, alors vraiment l'accompagnement quand il y a la mort, etc. Bon. Après, le septième chapitre, c'est sur l'éducation, alors ça peut vous donner des idées pour l'éducation des enfants, enfin, vos enfants sont peut-être grands, mais... Voilà. En tout cas, donc, huitième chapitre, alors c'est le chapitre qui était regardé davantage à la loupe par les médias, notamment parce qu'il est question des situations appelées irrégulières. Et voilà, alors, c'est accompagner, discerner, intégrer la fragilité. Ça, c'est. Voilà. Mais vous voyez que tout cette partie-là, c'est pas. D'abord, ce n'est pas le cœur de la... Le pape n'a pas voulu que ça soit centré là-dessus. Alors, il en parle et c'est important pour lui, mais ce n'est pas non plus le centre de son document. Et après, la neuvième partie, plutôt sur la spiritualité. Voilà. Alors là, c'est un survol rapide du plan. Après, j'ai repris un petit abécédaire. Alors, ça, vous le lirez à la maison, votre devoir, quand vous rentrerez chez vous. Voilà. Alors, deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce document, c'est avant tout un document pastoral. C'est pas d'abord un document doctrinal, même, vous vous rappelez au chapitre 3, le troisième chapitre, c'est le pape François reprend l'enseignement de l'Église sur la famille. Son but, c'est pas d'innover quelque chose, voilà. Mais quand même, le document est un document avant tout pastoral. Certains disent que c'est l'application à la famille de la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile où il veut rejoindre tous les gens. Alors ça, appliqué à la famille, ça donne ça. Voilà. Mais donc, c'est vraiment un document pastoral. Je crois qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit quand on l'aborde. Alors, je vais reprendre quelques mots. Pour relever un peu cette dimension pastorale. D'abord, il y a toute une dimension de pédagogie. Donc le pape, donc, un jésuite, il a exercé cette fonction de pédagogue. Et du coup, à la limite, vous pourriez prendre derrière le chapitre 8, avant le chapitre 8, il y a le chapitre 7. Ça. Et le chapitre 7, là, je crois que je vous étonne. Hein, chapitre 7, c'est sur l'éducation. Mais c'est très intéressant de lire le chapitre 8 en ayant à l'esprit cette perspective d'éducation. Parce que c'est vraiment la perspective. Dans le chapitre 8, c'est une perspective d'éducation. Alors, ce n'est pas pour des enfants, c'est pour ceux qui ont vécu des choses difficiles. Mais il y a vraiment cette perspective pédagogique du pape. Et je pense que c'est bien de lire le chapitre 8 à la suite du chapitre 7. Hein, parce que, bon, voilà, elle se moque de moi. Bon, j'arrête. Je vais que c'est... Alors, je vous lis deux numéros du chapitre 7, justement, pour étayer ce que... Pour que vous soyez convaincus qu'il faut choisir lire le chapitre 7 avant le chapitre 8. Voilà. Alors, numéro 271, c'est des extraits uniquement. L'éducation morale implique de demander à un enfant ou à un jeune uniquement ces choses qui ne représentent pas pour lui un sacrifice disproportionné. De n'exiger de lui qu'une part d'effort qui ne provoque pas de ressentiment ou des actions trop forcées. Le parcours ordinaire est de proposer de petits pas qui peuvent être compris, acceptés et valorisés et impliquent un renoncement proportionné. Autrement, en exigeant trop, nous n'obtenons rien. À peine la personne pourra-t-elle se libérer de l'autorité que probablement elle cessera de bien agir. Et je trouve que c'est très intéressant ce passage. Après, vous le passez au niveau des situations difficiles dans l'Église, c'est tout à fait l'état d'esprit du pape. Si on demande trop aux gens, ils vont dehors. Et le but, c'est quand même qu'ils puissent rencontrer Dieu. Donc, cette pastorale des petits pas, c'est quand même beaucoup son attitude. Alors, numéro 273. Lorsqu'on propose des valeurs, il faut aller progressivement. Avancer de diverses manières selon l'âge et les possibilités concrètes des personnes, sans prétendre appliquer des méthodologies rigides et immuables. Les précieux apports de la psychologie et des sciences de l'éducation montrent la nécessité d'un progrès graduel dans l'obtention de changements de comportement, mais ils montrent aussi que la liberté exige des réseaux et des stimulations, car abandonnée à elle-même, elle ne garantit pas la maturation. Ça aussi, vous pouvez l'appliquer. Il le dit pour les enfants, mais vous pouvez l'appliquer aux situations un peu compliquées. Voilà, d'aller progressivement, ça c'est tout à fait dans le... voilà, et quelque part, il dit, il suffit pas de mettre des panneaux d'avertissement, dire c'est mal, tout ça, il faut accompagner les gens et puis les aider. Voilà. Alors ça, c'est vraiment dans cette dimension pastorale. Alors, j'ai déjà évoqué le fait de cette gradualité. Alors, la pédagogie, ça serait un premier mot, la gradualité, ou les petits pas, ou le chemin, ça c'est, petit pas, chemin, ce serait un deuxième paragraphe, ce serait de dire... En prenant l'exemple du sportif, voilà, comme les sportifs, ben c'est pas du premier coup qu'on atteint vraiment les sommets, voilà. Mais c'est et alors donc c'est un peu dans ce sens-là de gradualité. Alors le pape François a repris ce thème qui avait été un peu abandonné, qui est pas forcément facile à comprendre, de gradualité. Que Jean-Paul II avait pris déjà dans Familiaris Consortio, après, donc en 1981, en insistant bien que ce n'est pas la gradualité de la loi, mais la gradualité dans l'accomplissement. Voilà. Pour vivre ce que demande la loi, mais la loi, on ne la rabaisse pas à ce qu'on veut faire. Voilà. Le mot cheminement ou chemin, ça apparaît 80 fois dans l'exhortation. Donc c'est un mot qu'il aime bien. Pour dire, voilà, on est en route, il ne faut pas figer les gens à leur situation d'aujourd'hui, il faut les emmener un peu plus loin. Donc voilà. Donc pédagogie, après le deuxième paragraphe, ça serait gradualité à petit pas chemin. Troisième chose, ce serait l'attention aux personnes plus qu'aux normes. Et ce qui intéresse le pape, ça c'est... Bon, il aime bien le dialogue, etc. Lui, c'est rencontrer les personnes, c'est pas tellement proposer un idéal à vivre. Il veut pas proposer un idéal abstrait. Il veut rencontrer les gens et puis essayer de les emmener plus loin. Et c'est... Donc, toute la partie 6, c'est vraiment l'accompagnement des fiancés, des premières années de vie matrimoniale, quand il y a des difficultés, des crises, etc. Donc, il est beaucoup dans cette partie d'accompagner les personnes. Lui, il ne veut pas avant d'abord donner des normes, mais d'abord accompagner les personnes. Alors ça, toujours dans cette perspective pastorale, donc pédagogie, gradualité, l'accompagnement des personnes. Troisième élément, ce serait ne pas juger, mais sauver. Le pape François est attentif à ne pas mettre des étiquettes sur les gens. D'ailleurs, dans le vocabulaire, il met des situations, il ne met pas discernement des situations irrégulières, mais discernement des situations appelées irrégulières. Quelque part, il met un petit bémol pour ne pas juger que... Alors, il y avait un questionnaire qui avait été fait dans différentes paroisses pour justement des gens qui fréquentaient pas souvent l'église et qu'est-ce qu'ils attendaient de l'église. Et pour beaucoup, ce qui est un frein, c'est de se sentir jugé. Et le pape François, justement, a ce souci que les gens ne se sentent pas jugés au point de départ. Alors, ce qu'ils font, c'est peut-être pas bien, on ne va pas canoniser leur manière de faire. Mais que la personne ne se sente pas jugée. Il est beaucoup dans cette ligne, le pape François. Cinquième élément, peut-être toujours dans cette perspective pédagogique, cette perspective pastorale, c'est le fait de intégrer plutôt qu'exclure. Il avait fait une homélie, je crois que c'est le 15 février 2015, aux nouveaux cardinaux, en disant il y a deux logiques. Il y a celle où on exclut et puis on enlève tous ceux qui ne sont pas dans la norme. Ou alors il y a une autre logique, on essaie sans cesse de retrouver la brebis perdue et puis voilà. Et voilà. Et pour lui, la logique de l'évangile, ce n'est pas d'exclure tous ceux qui ne filent pas droit. C'est d'essayer de retrouver, de toujours essayer de rechercher la brebis perdue. C'est un peu schématique ce que je dis, mais je pense que c'est important d'avoir cette perspective dans sa lettre, il a vraiment cette perspective pastorale. Encore une fois, ce n'est pas d'abord un document doctrinal ou canonique, ou voilà. C'est plutôt une perspective pastorale pour aller à la rencontre de ceux qui... Bon. Après, troisième point, c'est sur le point pour lequel les médias ont plus parlé, sur les divorcés remariés. Alors, par exemple, on pouvait lire « C'est officiel, le pape François entrouvre une porte de l'Église qui était jusque-là fermée aux divorcés remariés. » En fait, je ne pense pas que... Le pape, il n'avait pas envie de répondre sur la question, je crois. Il ne voulait pas répondre sur la question « oui, non ». Pour lui, la question de la communion aux divorcés remariés, il disait « c'est un piège, cette question ». Quelque part, je n'ai pas descendu. Notre évêque nous a écrit une lettre il y a 2 jours, je crois, pour nous dire « vous précipitez pas à faire des choses, attendez, à faire des innovations, voilà. Attendez qu'on prenne le temps de digérer un petit peu d'abord, de comprendre ce que le pape veut nous dire, et après on verra, mais bon. Et je pense que c'est bien. Mais alors j'ai eu une question il y a 2 jours, parce qu'on raisonne quelquefois de façon un peu binaire, oui, non. Et je pense que c'est le pape essaie de nous... En tout cas, ce n'est pas sa façon de fonctionner en disant oui, non. Quelqu'un m'a demandé, alors je vous présente discrètement la situation. Un jeune homme aime beaucoup une jeune fille, voilà, et il y a une réunion de famille. Faut-il inviter ou non la jeune fille? Il n'y a pas de mariage qui est en vue pour l'instant, et dans cette famille, normalement, on ne vient à une réunion familiale que quand... Voilà, au moins quand on est fiancé, quand il y a quelque chose d'un peu clair. Voilà. Alors du coup, quelqu'un me demandait, on l'invite ou on ne l'invite pas? Oui, non. Alors je ne savais pas trop. À vrai dire, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ma réponse, hein, mais en fait, en l'occurrence, le garçon, je crois que lui, il serait plutôt partant. Mais bon, il ne peut pas forcer l'autre personne qui a peut-être un blocage ou un autre. Enfin, bon, mais du coup, ce que j'ai essayé de répondre, je ne sais pas si c'est bien. Alors, je me mettrai à genoux et puis... je t'ai dit, mais est-ce que le plus important, c'est de répondre oui ou non? Le plus important, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que finalement, ils puissent avancer, ces deux jeunes, vers le mariage? Est-ce que c'est ça notre désir? Ou est-ce que... Alors, si c'est ça notre désir, ce que j'ai plutôt encouragé à faire, c'est de dire, mais de faire un pas, de dire, mais d'abord d'avoir un temps de discussion, pas simplement dire oui, non, parce que ça avance à rien, à mon avis. Ça blesse si on dit non, et puis même si on dit oui, mais que voilà. Mais plutôt d'avoir un temps de discussion pour voir, mais alors ça peut être un peu délicat, mais en même temps de pouvoir parler, de dire, ben voilà, je pense que c'est bien quand même le mariage. Bon, je crois que le jeune homme en est convaincu, mais quel est le petit pas que vous pourriez faire? Et c'est vrai que moi, ça ne me gêne pas de vous inviter dans la mesure où vous faites un pas qui va dans la bonne direction. Mais en tout cas, que ça me gênerait de vous inviter si vous faites du surplace et que c'est une situation qui s'enlise complètement. Moi, ça me gênerait, mais pour vous. Et du coup, le conseil, c'était plutôt d'essayer d'avoir une discussion pour voir mais quel est le petit pas que vous pourriez faire pour avancer, pour faire un pas. Voilà. Alors c'était oui, si, mais enfin, voilà, c'était plus nuancé peut-être comme réponse. Je ne sais pas si c'était forcément la bonne réponse. Mais du coup, pour revenir au divorcé remarié, je pense que c'est un peu plus dans cette veine-là de dire plutôt, pas forcément dire d'emblée oui, non, mais d'inciter les gens à faire un pas dans le bon sens. Sachant que, alors l'Eucharistie est une grande grâce, on reçoit Dieu lui-même hein, quand on reçoit l'Eucharistie, mais le but ultime, ce n'est pas l'Eucharistie. Le but ultime, c'est au ciel, quand on sera de cette communion définitive avec Dieu. Il ne faut pas perdre de vue quand même l'Eucharistie, c'est le plus beau des moyens, mais quelque part, c'est quand même un certain moyen vis-à-vis du but ultime. Et se fixer sur le moyen en perdant de vue le but ultime, ça me semble... l'intérêt, c'est que les gens rencontrent Dieu à la fin de leur jour, enfin déjà maintenant si possible, et puis a fortiori à la fin de leur jour. Je pense que c'est ça qui est le plus essentiel. Et du coup, je pense que le pape est plutôt dans cette perspective-là. Et du coup, rentrer dans une question trop casuistique, oui, non, c'était pas très... Lui, je pense qu'il se fixe plutôt sur le but ultime. Mon but, c'est que les gens rencontrent Dieu et qu'ils aient une vraie communion avec Dieu. Alors, quelque part, il ne voulait pas se faire que ça soit l'argument principal de ce document, parce que pour lui, l'important, c'est que les gens rencontrent Dieu. Bien sûr, il ne s'agit pas de diminuer l'Eucharistie, qui est vraiment une... Mais le plus important, au-delà de l'Eucharistie, ça reste un sacrement, c'est quand même la communion avec Dieu. Et je pense que, voilà, du coup, il ne voulait pas tellement de... de règles générales. Là, j'avais dit que j'arrêtais à 3h10, donc je vais m'arrêter. Mais... c'était un peu les trois éléments. Je vais pas développer davantage, mais les trois éléments qui me semblent importants, au moins pour introduire. Après, bon, lisez-la, ça sera beaucoup mieux, mais... Alors, oui, là, c'était juste parce que le chapitre était un peu plus petit. Donc, le mois prochain, il reste deux chapitres. Le chapitre 4, qui vient après le chapitre 3, que nous venons de terminer. Et donc, on le fait le mois prochain et le mois suivant, le chapitre 5, évangélisateur avec l'esprit. Voilà. Je coupe. Voilà, merci pour votre attention bienveillante.